Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abbas Ouédraogo.
La une, terrorisme au Burkina, l'armée note une relative accalmie. 83 terroristes ont été tués en un mois, selon le bulletin mensuel de l'état-major général des armées. Le Premier ministre Albert Ouédraogo a officiellement lancé ce lundi 18 juillet la première session de l'année 2022 de la commission de partenariat public-privé. Plusieurs secteurs sont concernés. Diplomatie, arrestation de soldats ivoiriens au Mali. Assimi Goïta désigne le Togo pour jouer les bons offices. La destruction des ponts et des ouvrages de franchissement par les groupes armés terroristes pourrait présager des attaques de grande envergure. C'est ce que pense l'analyste et expert en sécurité Mamoudou Sawadogo. Il est l'invité de la rédaction. Et puis, le sport viendra clore ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal sur Radio Oméga. Ouvrons donc ce journal pour parler de lutte contre le terrorisme. Entre le 15 juin et le 15 juillet dernier, 83 terroristes ont été neutralisés, selon le bilan dressé par l'état-major général des armées dans son dernier bulletin mensuel. L'armée note une relative accalmie, marquée néanmoins par des attaques dans la boucle du Mouhoun et le centre-nord, notamment. Pour ce qui est de la destruction de certains ponts, l'état-major annonce leur reconstruction et la surveillance des autres ouvrages. Adam Scalette Ouédraogo nous fait le point.
L'opération dénommée Coural, conjointement organisée avec le Niger, a, selon l'armée, fait un assaut, d'abord sur une base terroriste à quelques kilomètres de Seitenga, qui a permis de neutraliser 15 terroristes et de détruire une importante logistique. Ensuite, une deuxième base logistique a été détruite dans les environs de Solan avec 19 terroristes tués, indique le bulletin mensuel sur les opérations de sécurisation. Et enfin, 22 terroristes ont été neutralisés au cours d'un accrochage dans les environs de Seba. L'opération conjointe en question a été conduite du 26 juin au 10 juillet 2022. Elle a mobilisé, selon le bulletin mensuel, plusieurs échelons tactiques interarmes burkinabés et nigériens, avec une parfaite mutualisation des moyens d'appui feu et renseignement. Le poste de commandement conjoint PCC était basé à Dori et a regroupé des officiers d'état-major des deux pays, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Cependant, 4 militaires ont été blessés au cours de l'opération et c'est lors d'un accrochage, précise l'armée, dans les environs de Seba. La vie a repris dans les localités de Solan avec un retour progressif des populations. La réouverture des commerces et la poursuite du trafic a rassuré l'armée. À Barsalgo, dans le centre-nord, une attaque d'hommes armés est intervenue le 10 juillet dernier. Selon l'armée, suite à cette attaque, les forces armées militaires ont engagé une contre-offensive d'envergure afin de traquer et neutraliser les assaillants. Cette action, qui a combiné opérations terrestres et aériennes, a permis quelques heures après l'attaque de détruire une base terroriste dans la localité de Bangmyogou, peut-on lire dans le bulletin qui poursuit que la contre-offensive s'est poursuivie sur plusieurs jours et a permis de détruire trois bases terroristes, dont un plot logistique. Selon l'armée, au moins 27 présumés terroristes ont été abattus. Une importante quantité de matériel, dont des armes, des munitions, des engins explosifs et des moyens de communication, ont été saisis ou détruits, ajoute-t-elle. L'armée note néanmoins au cours de ces derniers jours une tentative d'isolement de certaines localités par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies. En réponse, les forces de défense et de sécurité disent poursuivre leurs actions de réorganisation structurelle et opérationnelle afin d'inverser durablement la tendance. Toutefois, elle rassure que des efforts sont entrepris pour réparer les ouvrages détruits et renforcer la surveillance sur les autres. Ces efforts seront vains sans une participation active des populations, a rappelé l'armée.
Insécurité toujours, le phénomène d'enlèvement de femmes dans la localité de Titao se poursuit. Le 16 juillet 2022, au moins 8 femmes ont été enlevées dans la brousse de Signoguin, un quartier situé au secteur 3 de Titao, a pris Omega Media. Les femmes ont été ensuite abandonnées dans une localité proche de Ngadé, à 35 km à l'ouest de Titao, a précisé une source locale. Selon les témoignages, les hommes armés utilisent pratiquement les mêmes modes opératoires. Ils surprennent des femmes qui se sont aventurées en brousse à la recherche de bois ou de feuilles de cuisine, qu'ils embarquent dans des taxis-motos après avoir pris le soin de bander leurs yeux. Ils les amènent ensuite dans des lieux éloignés et les libèrent par la suite dans une localité souvent proche d'une agglomération une nuit ou deux passées dans leurs mains. Le mercredi 13 juillet 2022, une vingtaine de femmes et de filles avaient été également prises et débarquées ensuite dans un village à proximité de Waiguia après une nuit passée dans les mains de leurs ravisseurs. Partenariat État-secteur privé. Dans un contexte marqué par l'amenuisement de l'aide publique au développement, la rareté des financements concessionnels et l'insuffisance des ressources propres à l'État, le recours au partenariat public-privé devient une nécessité au Burkina. À cet effet, le Premier ministre Albert Ouédraogo a officiellement lancé ce lundi 18 juillet la première session de l'année 2022 de la Commission de partenariat public-privé. Plusieurs secteurs sont concernés. Plus de détails avec Aïna Thiemtouré et Florentine Sommet.
Au moins 6 secteurs sont concernés par cette première session de validation de l'année 2022 de la Commission partenariat public-privé. Sur 45 projets, 17 ont été retenus, suivant certains critères, notamment le niveau de maturité du projet et la justification de l'option PPP.
Alors, ça rentre dans le cadre justement de la mise en œuvre normale hein, de la nouvelle loi PPP qui a été adoptée en 2021, selon laquelle tout projet qui doit être réalisé en PPP doit passer devant la commission PPP. Voilà, pour bien sûr avoir la validation de cette commission. Et la même commission, avant de valider les nouveaux projets, doit également regarder le niveau d'exécution du programme PPP en cours. Et ça porte dans plusieurs secteurs, c'est dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur des infrastructures. Donc il y a 6 secteurs en gros qui sont concernés.
Pour la Commission, le taux d'exécution de cette première session 2022 est acceptable par rapport à la dernière session.
Expliquer en tout cas la tenue de cette première session de l'année. Alors, concernant le rapport d'exécution, il a porté essentiellement sur le programme PPP en cours, effectivement qui a été adopté depuis 2016, qui portait 94 projets. Alors donc, l'évaluation a montré que ce projet s'est exécuté avec un taux d'exécution quand même assez faible, qui ressort à 14%, mais qui s'explique par le fait que ce projet avait été inscrit à l'époque avec un certain nombre d'insuffisances au niveau des études. Donc naturellement, au moment de la mise en œuvre, donc, il y avait beaucoup de difficultés pour pouvoir les réaliser, ce qui explique effectivement le faible taux en tout cas de contractualisation. À cela s'ajoute également l'absence de tous les outils pertinents qui devaient permettre vraiment de bien les évaluer. Donc l'un dans l'autre, je pense que le taux d'exécution c'est faible certes, mais au regard des contraintes que les acteurs avaient, je pense que c'est assez acceptable par rapport à la dernière session qui s'est tenue où on était à 5%.
Et pour mieux avancer dans ce processus de validation, la Commission a fait des recommandations.
Maintenant, l'autre aspect, c'était effectivement de se pencher sur un projet de nouvelle liste de projets PPP à soumettre pour justement actualiser la liste actuelle. Alors, donc là aussi, la Commission en tout cas a bien regardé et il y a des orientations qui ont été données pour qu'on puisse en fait aller mieux peaufiner et prendre en compte un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'éléments et revenir pour que en fait la commission puisse éventuellement les valider. Donc on peut dire que la session s'est très bien passée, on a eu les orientations qu'il faut pour avancer dans le processus de préparation parce que nous ne sommes qu'à l'étape de constitution de la liste des projets qui peuvent être envisagés en PPP. Donc les orientations qui ont été données à cette commission-là vont permettre de repartir, travailler avec les sectoriels et de revenir pour avoir la validation pour pouvoir poursuivre.
Au Burkina Faso, le déficit en infrastructures socio-économiques est considérable, en plus de l'insuffisance des ressources propres de l'État. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la démarche du gouvernement de la transition de faire le choix de l'expertise et du savoir-faire du secteur privé à travers un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes.
Et on parle santé dans ce journal. Il manquera 18 millions de personnes de santé, de personnel de santé d'ici à 2030 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. La situation sanitaire du Burkina Faso, malgré une amélioration certaine, reste caractérisée par des taux de mortalité générale et spécifique élevés. Quelle nouvelle approche pour faire face ? Pour répondre à cette interrogation, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a tenu une séance de sensibilisation aux hommes de médias sur la nouvelle directive de l'OMS, l'auto-soin. Cette activité s'est déroulée au sein de la direction de la santé et de la famille Sisa Ouagadougou ce lundi. Les explications de Moumouni Tamboura.
400 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services de santé essentiels. 130 millions ont besoin d'une aide humanitaire selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut impérativement de nouvelles approches novatrices sanitaires pour l'avenir. C'est en ce sens que l'auto-soin est aperçu comme une opportunité. Une directive de l'OMS. Elle définit l'auto-soin comme la capacité des individus, des familles et des communautés à promouvoir la santé, à prévenir les maladies, à se maintenir en bonne santé et à faire face aux maladies et aux handicaps avec ou sans l'aide d'un prestataire de soins de santé. Mais attention, il ne faut pas confondre auto-soin et automédication. Valérie Zombré, directrice de la santé de la famille.
L'automédication, c'est vraiment la personne qui prend la décision, elle seule, de prendre des médicaments. Alors que dans l'autogestion, il y a des directives qui sont données, il y a des filles qui orientent la personne.
Bien que le panier d'objectifs des responsables de santé est large, des difficultés sont rencontrées à plusieurs niveaux. Docteur Clotaire Yen, point focal des auto-soins, rassure l'accompagnement de l'OMS.
Et le Burkina étant un pays pionnier qui met en œuvre déjà cette stratégie, nous sommes vraiment engagés à côté du ministère de la Santé pour que cette stratégie soit développée, mise en œuvre et surtout à l'échelle nationale. Et ça va être pour nous aussi un pays pilote, un pays d'expérimentation.
Les agents de santé attendent voir un monde dans lequel les peuples atteignent le niveau de santé et de bien-être le plus élevé possible. Ils demandent également une réduction des coûts des soins en finançant les services de santé et une amélioration de l'accès aux centres de soins sur tout le territoire burkinabé à travers un seuil de 2 heures établi par l'OMS. Ce projet arrive dans le mois de l'auto-soin pour la santé et le bien-être au Burkina qui se déroule chaque année de 24 juin au 24 juillet.
Tout autre chose à présent, de 9 sociétés immobilières agréées en 2014, le ministère de l'Urbanisme se trouve de nos jours avec 275 sociétés. Il est donc important pour le gouvernement de réorganiser ce secteur en mettant en place une commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cession des terres de domaines privés immobiliers de l'État destinés à la promotion immobilière. Et ils sont au total 9 membres issus de plusieurs secteurs d'activité qui sont désormais chargés de réorganiser ce secteur immobilier et foncier. La cérémonie d'installation s'est déroulée ce 18 juillet à Ouagadougou, compte rendu Valérie Guéry et Nemata Kabouré.
Désormais, 9 commissaires interministériels sont chargés de donner l'heure sur la cession des terres du domaine privé immobilier de l'État destiné à la promotion immobilière. Et la présente cérémonie marque le début officiel de leur mission. Une occasion pour le patron du gouvernement de rappeler toutes les difficultés liées à ce secteur. Il s'agit entre autres des conflits fonciers, le phénomène d'accaparement des terres, des dysfonctionnements constatés dans le processus de réalisation des projets miniers et la mobilisation du foncier par les promoteurs immobiliers. Albert Ouidraogo.
Des superficies démesurées mobilisées par les promoteurs immobiliers pouvant atteindre jusqu'à 700 hectares. Les sociétés immobilières ont mobilisé plus de 30 000 hectares à Ouagadougou, soit 300 fois plus que la cité des 1200 logements que vous connaissez.
Depuis 2014 à nos jours, le Burkina Faso fait face à un boom foncier passant de 9 sociétés immobilières agréées à 275, ce qui a entraîné des dérives dans ce secteur peu réglementé. Et l'installation des membres de cette commission va permettre de réorganiser le secteur foncier tout en impliquant tous les acteurs, à en croire le ministre de l'Urbanisme, Boukari Savadogo.
Cette commission a l'avantage d'impliquer plusieurs départements ministériels, les collectivités territoriales. C'est pour dire que c'est tout le monde qui est appelé à apporter sa contribution pour une meilleure organisation donc de la promotion immobilière au profit la population et au profit donc du développement de notre pays.
Avant de remettre officiellement ce visuel qui rappelle les grandes missions de la commission, le Premier ministre a invité tous les acteurs à une application stricte des textes qui régissent le secteur foncier et immobilier.
Page internationale de ce journal, le président de la transition, Assimi Goïta, a reçu en audience ce lundi 18 juillet au Mali le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Ducey. Les deux hommes ont évoqué l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali le 10 juillet dernier. Assimi Goïta s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellente relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Le président Assimi Goïta a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées. Le Togo s'est dit prêt à poursuivre son appui à la transition et aider à la résoudre de cette situation.
Omega Sport.
En sport, nous parlons Cannes féminine 2022, l'Afrique du Sud en finale. Comme en 2018, l'équipe nationale d'Afrique du Sud s'est qualifiée donc pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines ce lundi à Casablanca, en battant en demi-finale de la Cannes 2022 la Zambie par le score d'un but à zéro grâce à un penalty dans les arrêts de jeu. Les Sud-Africaines affronteront le Maroc le 23 juillet à Rabat pour un titre qu'elles n'ont jamais remporté. En rappel, en 2018, elle s'était en effet inclinée en finale face aux Nigérianes au tir au but.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est l'analyste et expert en sécurité Mamoudou Savadogo. Ces derniers jours, les groupes armés procèdent par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies, les ponts et autres. Selon l'analyste, la destruction de ces ouvrages pourrait présager des attaques de grande envergure dans ces localités. Cependant, plusieurs autres raisons peuvent expliquer ce phénomène. Ces infrastructures appelées des points sensibles méritent une protection particulière, affirme l'analyste. Mamoudou Savadogo répond aux questions de Lamine Traoré.
Bonjour Mamoudou Savadogo.
Bonjour Lamine.
Ces derniers jours, les groupes armés procèdent par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies, pour ne pas dire les ponts. Comment vous analysez cela?
La destruction des ponts et des ouvrages de franchissement pourrait présager des attaques de grande envergure pour les localités qui ont vu leurs ponts détruits. Cela aussi peut avoir pour objectif de complexifier le déploiement logistique de l'armée qui est en train de se mettre en œuvre pour, dans le cadre des opérations et de la détermination des zones d'intérêt militaire. La troisième hypothèse, c'est empêcher les populations de quitter ces zones d'intérêt militaire afin d'être confondues à la population, donc de mettre encore en difficulté l'armée dans ses manœuvres.
Outre ces infrastructures routières, les groupes armés détruisent aussi les moyens de communication. Dans des localités, il est difficile de passer des coups de fil. Cela aussi fait partie des stratégies de ces groupes.
En plus de ces infrastructures de franchissement qui ont été détruites, nous avons assisté à une destruction systématique au début de l'année 2022 des moyens de communication et aussi d'installations sensibles comme les aérodromes. On a l'exemple de l'aérodrome de Ouéguia. Cela découle de la stratégie des groupes armés terroristes qui les permet d'isoler les communes, d'isoler les villages, afin que les VDP et les forces de défense et de sécurité ne puissent pas intervenir en temps, donc pour empêcher les populations de communiquer avec les VDP et les forces de défense et de sécurité, et aussi pour couper les populations et aussi les villages du reste du monde. Ce qui les isole davantage et donc les laisse à la merci de ces groupes armés terroristes.
Comment faut-il faire, Mamoudou Savadogo, face à la destruction de ces infrastructures?
Ces infrastructures sont appelées des points sensibles, des zones sensibles, alors ils méritent une protection particulière. Dans tout combat, une des stratégies est effectivement la protection des points sensibles. Et il faut impérativement mettre un dispositif de protection autour ou bien sur ces points sensibles pour empêcher la destruction de ces points sensibles, parce que ça peut entraîner et handicaper l'action des forces de défense et de sécurité, et ça peut aussi contraindre les populations à subir les exactions et la violence poussée de ces groupes armés terroristes. D'où la nécessité de prendre soin et d'où la nécessité d'en faire une protection au plus haut degré.
L'armée, elle, demande la collaboration des populations pour protéger ces infrastructures. Est-ce que cela suffit?
Elle ne suffit pas parce que ces populations sont démunies. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'aider la population à protéger ses infrastructures. Il faut une présence marquée de l'armée. Il faut sensibiliser les populations. Ce que les populations peuvent faire en aidant l'armée, c'est de donner l'information lorsque ces groupes armés sont en train d'installer des JED, des mines pour faire exploser le pont. Ces populations, lorsqu'elles signalent aussi, s'exposent à la vindicte de ces groupes armés. Donc, la seule solution, ou la solution la plus pérenne ou l'idéal, c'est effectivement une présence marquée des forces de défense et de sécurité, et afin d'empêcher les groupes armés d'isoler deux villes ou deux communautés.
L'armée a interdit la circulation des motos dans certaines zones. Est-ce que cela est un moyen efficace pour lutter contre ces phénomènes?
Selon moi, l'interdiction de circuler va complexifier davantage l'alerte même des populations. Il va complexifier davantage la situation de vie des populations parce que c'est le seul moyen par lequel ils arrivent effectivement à atteindre les villes pour pouvoir se ravitailler et aussi pouvoir se soigner. Et aussi, c'est le seul moyen par lequel aujourd'hui, ils peuvent alerter les forces de défense et de sécurité, étant donné que les moyens de communication sont coupés par endroits, et étant donné aussi qu'ils commencent à couper les infrastructures routières. Donc, il n'y a qu'avec les motos qu'on puisse peut-être passer à travers un pont qui est cassé, ou avec les motos qu'on peut atteindre une ville pour signaler leur présence. Donc, ça risque d'être contre-productif si toutefois on n'empêche pas aussi les groupes armés terroristes de circuler et de venir agresser les populations.
Merci Mamoudou Sabadogo.
Merci Lami.
Et c'est ici que se referme cette édition réalisée par Fidel Compaoré. Merci de l'avoir suivi.
Radio Omega, l'info en direct.